Allez, aujourd'hui, je suis très content de recevoir Gaby Etchard pour ce premier épisode du podcast Orga, hormis la présentation de l'épisode qui avait été fait avec Jackie Gastesso. Et c'est donc Jackie qui nous a mis en relation, Gaby, parce que tu es un organisateur d'événements historique en France et on trouvait ça vraiment quelque chose de chouette de commencer par toi pour démarrer ce podcast Orga. Comment vas-tu, Gaby ?
Très bien, merci. J'espère que les auditeurs aussi vont bien.
Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite. En général, les auditeurs aiment bien écouter les podcasts quand ils font de la course à pied ou qu'ils sont sur un long trajet en voiture. Donc, on est très content de les accompagner pendant ce moment. Est-ce que tu pourrais te présenter, Gaby, s'il te plaît ?
Eh bien, je suis Gaby Etchard, basque, né à Asparin, un petit village basque, fils d'agriculteur. J'ai passé toute ma carrière professionnelle dans le monde agricole. Enfin, c'est pas tout à fait vrai puisque c'était au Crédit Agricole. Donc, ce n'est pas du tout le rythme de travail des agriculteurs. J'ai 76 ans et je suis organisateur de courses à pied depuis 1966, paraît-il, l'organisateur le plus ancien au monde. Bon, même si depuis 2 ou 3 ans, j'ai décroché la responsabilité suprême, mais je suis toujours impliqué dans l'organisation de course à pied. Alors, course à pied sur route au départ, disons course à pied villageoise en 66, ensuite course à pied sur route, et maintenant plutôt trail, avec la course des crêtes du Pays Basque à Espelette, bien connue pour sa première Miss France, bien connue pour un cardinal qu'on a eu qui a été mon voisin, et bien connue pour le fameux piment d'Espelette.
Ah, c'est sûr que c'est un joli village, j'ai eu l'occasion d'aller le visiter et c'est un village merveilleux avec chargé de vraiment très atypique. J'ai vraiment beaucoup aimé aller visiter ce village. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'organiser une course en 1966 ? C'était quand même quelque chose d'assez novateur et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'organiser cette course ?
Bon, déjà, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de courir ? J'avais mon père qui était un petit peu vantard comme moi, qui se disait très bon sprinteur. Alors, c'était dans les années 1917, 18, 19. Il courait le 100 mètres en 11 secondes. Et surtout, il se vantait d'être très leste, de sauter d'arbre en arbre à la ferme familiale. Et c'est vrai que les voisins m'avaient confirmé, oui, ton père a fait tout ça. Et puis, donc, je me suis mis, il faut que je fasse de la course à pied. Entre-temps, il y a eu un petit épisode où j'ai joué un petit peu au foot au collège, mais nous étions considérés comme des paysans, donc incapables de jouer au foot. Sauf que j'en ai marqué pas mal de buts. Et je me suis mis à la course à pied, parce que voilà, mon père était coureur, je courais toujours derrière les brebis, les vaches, nuit et jour, j'allais donner à manger aux vaches à la montagne l'hiver en courant, je revenais en courant. Bon, j'ai eu ça, disons, dans les veines, dans mon ADN. Et qui c'est qui m'a donné, qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'organiser? Eh bien, bof, mon tempérament de meneur, mon tempérament de développeur, ce qu'on m'a dit dans ma carrière professionnelle, je me dis, j'aime ça et je vais faire aimer aux autres. Voilà, c'était aussi simple que ça. La jeunesse sport, M. Iriart, M. Darac, qui sont du Pays Basque, certains ont très bien connu, m'ont appelé, parce qu'ils savaient qu'au collège, je me débrouille à peu près bien en course à pied, pourquoi on n'organiserait pas des courses rurales? Alors là, je peux dire qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à maintenant, je peux dire que j'ai tout connu de la course à pied, avec tous les changements, toutes les évolutions. Alors en 66, c'était étonnant, j'avais une licence fédérale, je crois que je suis peut-être le plus ancien licencié FFA, on m'interdisait de faire courir les licenciés avec les non-licenciés. Ça, je l'ai vécu. Et j'ai eu déjà maille à partir à ce moment-là. Pourquoi les licenciés n'avaient pas le droit de courir avec les non-licenciés? Et puis, ça a été inversé. Du coup, c'était les non-licenciés qui n'avaient pas le droit de courir avec les licenciés. Et puis, c'était les femmes qui n'avaient pas le droit de courir avec les hommes. J'ai connu toute cette période avec les seigneuries, le Steinfichter, etc. Nous avons défendu le fait de courir, que les femmes courent avec les hommes, et nous y sommes arrivés. Les femmes courent avec les hommes, et tout à l'heure, quand j'expliquerai la progression de la course des crêtes, vous allez voir que les femmes ont une part très importante. Donc, j'ai eu envie de courir pour faire connaître aux autres le plaisir que j'avais à courir.
Et alors, qui est-ce qui disait que ces pratiques étaient interdites? Ça venait d'où et ça s'exprimait comment?
Ah bah disons, c'était c'était bon, par exemple, la femme, là, le nom m'échappe, j'ai connu cette période, qui a été arrêtée par les gendarmes parce qu'elle courait avec les hommes. Bon, moi, le monde paysan, c'était pareil. Les vaches, on leur faisait pas faire le même travail que les bœufs. Ça, c'était, mais à ce moment-là, je trouvais normal. Finalement, partout, le sexe féminin, que ce soit dans les animaux ou que ce soit chez les personnes, était considéré comme un genre faible. Alors que, même dans les animaux, ceux qui sont les femelles sont pratiquement aussi bonnes que les mâles. Et c'est sûr que c'était nous, les humains, nous étions également dans cette conception. Alors qu'on s'aperçoit que les femmes courent, certes, un petit peu plus lentement peut-être, mais ont des capacités de performance aussi bonnes que les hommes. Et une femme qui courait à ce moment-là avec les hommes, eh bien, on l'a menée à l'abattoir. C'était l'état d'esprit. Alors qu'elles ont montré qu'elles sont aussi capables que nous de faire des distances quand même importantes. Et je sais que je peux même pas dire le secret, mais quand dans les quelques années qui viennent, mettons 3 ans qui viennent, il y aura une femme qui va gagner la course des crêtes.
Ouais, alors en plus ça tombe super bien le message qu'on est en train de passer, parce que l'américaine Camille Héron vient de battre un espèce de record de fou aux 48 heures. Alors j'ai pas le chiffre en tête exact du nombre de kilomètres qu'elle a fait, mais il y a que Yannis Kouros et puis un autre coureur qui ont fait mieux qu'elle. Donc effectivement c'est la vérité, les femmes sont tout autant capables que les hommes de courir. Mais c'était les institutionnels qui empêchaient ces pratiques, ou c'était plutôt les participants eux-mêmes?
Non, les institutionnels. Les institutionnels, parce que on leur disait de faire ça. La loi faisait que on prenait des risques de faire courir une femme avec des hommes. C'était dans la culture du monde. Mais entre-temps, ça a changé. Et puis, les femmes ont fait la preuve qu'elles sont capables de courir en même temps que les hommes. Ça ne veut pas dire plus vite que les hommes. Des fois, ça arrive. Mais c'était institutionnel. On ne concevait pas quelque chose qui, depuis la préhistoire, existait. Ce n'était pas la faute des gens. On ne leur avait pas appris autre chose. Et maintenant, les choses sont rentrées, disons, dans le... Oh, regardez le MMA, regardez la boxe, regardez... Mais ça a été la même évolution. Dans le monde du sport, il y avait une doctrine. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Comme dans l'église du Pays Basque. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre.
Là, c'est vrai que ce sont des pratiques qui semblent aujourd'hui assez... assez hallucinante, hein, et pourtant,
bon, qu'il faut utiliser le terme hallucinant. On a évolué d'une manière différente parce qu'on s'est rendu compte que ce qui était vrai dans les années 60 n'est plus vrai maintenant. Et la science l'a prouvé. Voilà, c'est tout. Il faut pas forcément, disons, mépriser les gens qui prenaient cette décision à l'époque. Il faut uniquement dire que l'évolution de la vie a fait que maintenant, les choses changent et changeront dans les années futures. Moi, je sais que dans 3 ans, j'aurai une femme championne de la course des crêtes. Elle aurait dû venir déjà cette année, mais le fait est que les contrats qu'elle a signés à gauche et à droite font qu'elle ne peut pas venir. Nous sommes 3 organisateurs, et je cache les autres noms, qui nous sommes débrouillés pour avoir cette personne dans nos courses.
Oui, c'est vrai qu'il faut remettre aussi en perspective avec la société telle qu'elle était, et puis pas unique, enfin, bien sûr. Et alors du coup, à quoi ça ressemblait d'organiser une course en 1966 versus aujourd'hui? Quelles étaient les démarches qu'il y avait à réaliser? Comment est-ce qu'on communiquait sur son événement? Ça ressemblait à quoi? Comment est-ce qu'on disait qu'on organisait une course?
Bon, en ce qui me concerne, je me suis toujours appuyé sur les médias locaux. À partir du moment où je passais dans le journal, j'étais un gars, un champion. C'était, oui, même actuellement, je suis considéré comme un champion. Alors que les performances de l'époque, maintenant, sont reléguées peut-être dans le dernier peloton d'une course. Donc, j'attirais l'attention. À partir du moment où on attire l'attention, les gens se disent, mais ce qu'il fait, c'est pas mal. Le maire d'Espelette, de l'époque, parce que moi, je ne suis pas né à Espelette, je suis né à Sparin. Et pour mon travail, j'ai été, disons, je me suis installé à Espelette. Le maire d'Espelette qui allait au travail, lui, dans son entreprise de 100 employés, me voyait courir à 5 heures du matin. Il me voyait courir à midi quand il allait manger. Il me voyait recourir à 17 heures quand lui, il avait fini son entreprise. Et il me disait, il avait dit au conseil municipal, on a récupéré à Espelette un pimpin, il court tout le temps. Il court tout le temps. Et il m'avait dit quelques années après, écoute, à l'époque, on t'avait pris pour un farfelu et maintenant, tu fais notre admiration. Parce que dans les rues d'Espelette, je faisais que courir. Parce que la nuit, en plus, je connaissais pas trop les environs. La nuit en hiver revient très vite. Et il y avait les jeunes d'Espelette qui étaient dans les bars. Je passais devant 7 ou 8 bars. Ils rigolaient parce que moi, je courais et eux, ils sirotaient. Et 10 ans ou 15 ans après, ils m'ont dit, mais maintenant, on court plus que toi. Voilà, c'était ça, la course à pied à l'époque. C'était ceux qui couraient à pied, c'était des originaux. Alors que maintenant, c'est presque ceux qui courent pas qui sont des originaux.
C'est vrai que le sport en lui-même a beaucoup changé. Et puis, ça devient un sport un petit peu stylé. Hein, comme on dit, le fait de savoir et avoir la capacité de courir pendant des heures et des heures et des nuits en montagne.
Oui, alors, ouais, ouais, mais maintenant, on passe peut-être à l'excès inverse. La course devient pour certains une drogue. Alors que courir, pour moi, c'est la chose principale des choses secondaires. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses beaucoup plus importantes que la course à pied. Et j'ai peur que, avec tous ces kilométrages réalisés à l'entraînement, je ne parle pas à la compétition, faire une très grosse course, une très longue course, 160, 200 kilomètres, une fois dans sa vie, c'est très bien. C'est très bien avoir la satisfaction d'être allé jusqu'au bout de quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui me fait peur, c'est toutes les séances d'entraînement. Toutes les séances d'entraînement. Mais par contre, la chose la positive que j'ai lue quelque part, c'est que la course à pied est venue le sport où on traite les affaires. Avant, c'était le golf. Et maintenant, ce serait la course à pied qui serait la rencontre sportive de rencontre entre hommes d'affaires, traiter les affaires, etc. Voilà, c'est bien. Il y a tellement de monde qui fait la course à pied que c'est là. Moi, j'ai conseillé une personne qui s'est engagée dans la vente de matériel sportif. Je lui ai dit, fais de la course à pied maintenant, plus pour avoir des contacts, pour amener des gens à ton entreprise. Et ce sera mieux que de chercher la performance parce que la performance s'arrête à un âge quand même. Et elle m'a téléphoné l'autre jour parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas contacté. J'ai suivi tes conseils et je ramasse les clients. Voilà. Et ça, c'est impeccable. Ça prouve que la course à pied a une base.
C'est vrai que la course à pied, il y a quelque chose de fabuleux, surtout quand on est organisateur. On est quand même la personne qui arrive à réunir plusieurs personnes de milieux sociaux différents et qui sont tous là dans le même but. Quelle est ta motivation profonde en tant qu'organisateur? Pourquoi organiser un événement?
Bon, la motivation, c'est plutôt passé maintenant dans l'habitude. Au départ, beaucoup de motivation. Faire en sorte que la course à pied devienne quelque chose d'agréable et festif. C'est pour ça que j'ai organisé. Alors, c'est là que je reviendrai aux femmes. Quand nous organisions la course des crêtes, il y avait 80, 100, 150 participants au fil des années. Mais à cette époque-là, mettons dans les années 75, dans les années 70, allez, la première partie des années 70, nous courions. Nous arrivions, fatigués, nos compagnes, nos âmes, nos femmes, nos amis, copines, nous attendaient. Et je crois que la plupart du temps, la première réflexion que nous avions, allez, donne-moi plus vite, prends les vieux vêtements, donne-moi des propres. Donc, les femmes étaient esclaves, à la limite. Et j'avais dit au comité directeur de l'époque que je présidais, si nous voulons continuer la cause des crêtes, il faut qu'on mette la fête pour les femmes. Et si jamais on écœure les femmes, on n'aura ni les femmes, ni les spectateurs, ni les coureurs. Et ça a marché. Quand nous avons fait les premières fêtes avec le bal, avec le repas et tout, les femmes obligeaient les maris à revenir. Et c'est pour ça que la participation des femmes en tant qu'accompagnatrices, mais accompagnatrices ayant du plaisir, c'est très important. C'est comme ça que nous sommes allés jusqu'à 3900 repas servis dans la même soirée, en une seule fois. Parce que les femmes pouvaient danser, pouvaient s'amuser pendant que les hommes étaient au bar. C'est là que je trouve la participation égalité, hommes-femmes, également dans la fête. Et ça a été fabuleux, et c'est toujours fabuleux.
D'où ça vient cette idée de course festive, mêler en fait la course à pied à la fête pour que ce soit vraiment un événement qui réunit et qui unit ces différents publics?
Dans la vie, il ne faut pas forcément inventer. Dans la vie, il faut copier ce qui est de meilleur chez les autres. On ne perd pas de temps. Quand on veut inventer quelque chose, on passe beaucoup de temps. Et on n'est pas sûr toujours de réussir. Par contre, quand on s'en va ailleurs, prendre ce qui est le mieux ailleurs, ça, c'est rentable. Là, j'ai été courir en Suisse. Et le soir, les trailers, ils étaient à table, ils rigolaient, ils buvaient une bière, enfin, plus qu'une bière même. Et je me suis dit, mais les trailers, ce sont des festifs. Ce sont des gens qui aiment la fête. Donc, je vais organiser un trail, enfin on l'appelait course de montagne à l'époque, dans lequel on fera la fête. Et nous étions allés à Sierzinal, mon équipe de club Niapourak, et nous avions animé le repas qui se faisait dans la rue, sous un chapiteau. Et j'avais dit aux la dizaine que nous étions, allez, on fait la même chose à la course des crêtes. Déjà, nous avions 7 ou 8 années de course des crêtes. Mais une fois que c'était fini, les gens rentraient à la maison. Et j'avais dit, on fait ça. On fait la fête, on l'organise. La première année, on fera entre nous pour essuyer les plâtres. Et nous avions plus qu'essuyé, puisqu'il avait fait des bourrasques terribles. Et nous avions été 25 à manger dans un coin parce qu'il y avait la pluie. Et le premier repas organisé a été à 300 personnes. Alors que nous avions prévu 220. Il a fallu aller chercher au dernier moment les tables et chaises, et nous avons pris tous les fauteuils du conseil municipal pour combler les places qui nous manquaient. Mais seulement nous avions les chaises, mais nous n'avions pas le couvert. Il a fallu aller chercher les couverts à gauche, à droite. Et le notaire du village, avec toute sa famille, était venu avec son propre couvert. Le premier repas de la course des crêtes, nous avions des couverts avec des fils d'or. Et voilà, c'est ça, et c'est passé après, de fil en aiguille, on est arrivé, le record, 3900 repas. Et jusqu'à il y a 3 ans, jusqu'au Covid, nous avions plus de 3300 repas. Nous avons fait peut-être 25 fois plus de 3000 repas. Et là, cette année, nous avons chargé la formule, c'est une autre équipe qui a pris. C'est la course des crêtes, c'est la fête. Ce n'est pas la compétition. Ce n'est pas des gens qui viennent chercher des performances qui participent forcément à la course des crêtes. Il y a des champions. Les équipes Adidas et compagnie sont venues. Mais ils viennent surtout pour la fête. J'ai l'exemple d'une dame qui avait son mari qui gagnait pratiquement toutes les courses régionales ou interrégionales, qui s'est affolée parce que on était au 450e coureur et son mari n'était pas là. Alors, mon mari a un malaise. Comment on fait pour... On le trouvait nulle part. Et puis, il est arrivé en 800e position et il m'a dit, mais il y a votre femme qui vous cherche, elle est affolée. Elle a pris devant nous une belle engueulade. qu'il était venu courir pour prendre du plaisir et non pas pour gagner. C'est ça l'esprit de la course de quête, c'est le sport, d'accord, la fête d'abord. Et ça, on y tient. On y tient, et la course de quête est considérée pratiquement comme la course la plus festive de France.
Bah, en tout cas, on sent que c'est vraiment dans l'ADN, dans l'esprit, dans l'origine de cette course que tout est axé pour que ce soit un événement convivial et festif.
Oui, bon, on a aussi nos petits défauts de temps en temps, hein, mais l'image de la course des crêtes, c'est la fête. Les gars viennent. Je vais vous donner l'exemple. En 1997, nous avons organisé le championnat de France de trail. J'ai pas voulu que le championnat de France soit dans la course des crêtes. Et je vous explique. Il y avait une équipe de Dax qui est arrivée pour le championnat de France, qui était un mois jour pour jour avant la course des crêtes. J'ai même pas eu le temps de dire bonjour, il fallait qu'ils s'échauffent. Ils se sont chauffés, ils se sont bien préparés pour le championnat de France. Le hasard a fait qu'un mois après, jour pour jour, ces mêmes personnes dans les mêmes voitures sont arrivés pour courir la course des crêtes, l'échauffement n'existait plus, ils sont allés directement au bar. Et voilà l'esprit de la course des crêtes. Il y a des compétitions pour le championnat, c'est pour ça que je n'avais pas voulu que le championnat de France soit le même jour que la course des crêtes. Et c'est le parfait exemple. La fête d'abord.
Alors le parcours de la course des crêtes, comment est-ce que vous l'avez dessiné la première fois? Est-ce qu'il a une histoire? Est-ce que lui aussi il a vraiment un sens? Est-ce que finalement c'était uniquement les sentiers qui étaient autour d'Espelette? Comment est-ce que ça a été dessiné au tout départ?
Alors l'histoire fait que un jour il y avait, je crois que c'était le 2 ou 3 janvier, qu'il y avait 2 ou 3 janvier 1976. Il y avait un petit cross rural, toujours rural, dans lequel je participais comme coureur, mais aussi comme organisateur, à côté d'un petit village qui s'appelle Souraïde. Et j'avais réuni 3 ou 4 personnes. Allez, on avait fini la compétition, on s'en va courir, et on essayait de partir sur le haut du Mont d'Arrain, et il neigeait. Il y avait la neige. Et dans la neige, on voit des pas. Et on se dit, tiens, il y a du monde qui est passé ici. Peut-être c'est des coureurs, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de coureurs. Et juste, les pas étaient celui du président de l'association Yapura, le docteur Simonet, malheureusement décédé quelques années plus tard d'un accident à la montagne. Et on lui avait dit, voilà, on essaie de préparer une course, mais ça ne va pas, il me dit, ça ne va pas ici à la montagne, bien sûr, à la montagne, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et c'est là que, dans la neige, on a tracé un premier parcours qui passait dans 3 villages et 3 pays. Il y avait la France, il y avait l'Espagne et il y avait le Pays Basque. Puisqu'il y a 50 mètres qui sont communs à la France et à l'Espagne et qui est le Pays Basque. C'est pour ça qu'on l'a appelé la course des crêtes du Pays Basque et à Espelette. Et ce circuit est resté pendant une bonne douzaine d'années parce que nous passions en Espagne alors que c'était interdit. Et j'aurais plusieurs histoires à raconter, quelques-unes qui ne manquent pas de sel et de piment. Une année, les deux ou trois premières années, nous avions les militaires de Bayonne qui venaient nous faire les transmissions. Alors c'est sûr, quand moi je passais, le temps qu'ils disent « E » comme Elodie, « T » comme Théodule, etc., bon, il y en avait 10 qui étaient passés. Et en Espagne, ils ont vu à un moment donné qu'il y avait des militaires français qui se baladaient en Espagne, dans les fameux 50 mètres. Donc, ils ont envoyé un peloton espagnol pour s'expliquer, pratiquement avec armes de guerre. Mais ça nous a fait 50 spectateurs de plus, parce qu'ils n'imaginaient pas qu'il y avait des coureurs à pied qui pouvaient passer dans cet endroit-là. Nous avons perdu les militaires, pas parce que ils étaient pas contents, c'est parce qu'ils étaient trop contents. Quand il y avait les appelés qui venaient tenir les engins de transmission, les gars de chez nous, les agriculteurs, les bergers, qui n'avaient jamais vu de compétition sportive avant, Eh bien, ils venaient avec ce qu'il fallait comme ravitaillement pour les militaires. Résultat, nous amenions les militaires au retour dans les remorques parce qu'ils étaient complètement hachés. Et les transmissions, c'était les bergers et tout ça qui les faisaient. Alors, c'est sûr, il y avait du folklore. Non, nous les avons perdus, les militaires, parce que nous les avions rendus complètement sous à leur capitaine. Ça, c'est des histoires un petit peu burlesques, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres que je pourrais raconter pendant l'histoire, comme ce cheval. Les agriculteurs, les bergers du coin, venaient avec leur casse-croûte perso, c'est-à-dire manger et boire. Et ils avaient l'habitude de casser la croûte tranquille tous les matins. Donc, à l'heure du casse-croûte, ils mettent une flèche au cheval, parce qu'il y en a qui venaient à cheval, et ils mettent une flèche au cheval, comme ça, c'est le cheval qui dirigerait les coureurs. Et eux, ils allaient casser la croûte dans un coin, sauf que le cheval, qu'est-ce qu'il a fait ?
Il est tombé.
Il a regardé où était parti leur patron. Et les coureurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont suivi la flèche. Ce qui fait que il y a eu, à un moment donné, plein de coureurs qui sont venus au casse-croûte. Et il a fallu remettre le cheval dans le bon sens. Nous avons aussi eu quelque chose de particulier. Peut-être que je vais me faire taper sur les doigts par les personnes qui sont concernées. Nous avons eu un gars qui était vraiment... J'avais des motos. Bon, c'était pas comme maintenant où Natura 2000 et compagnie. Bon, on mettait des motos qui suivaient, donc un suivait le dernier. Et voilà qu'à l'arrivée, il nous manquait deux coureurs. Alors, j'ai dit au sérophile, mais le dernier là, tu l'as suivi ? Ah non. 5 kilomètres après, il avait 10 minutes de retard sur l'avant-dernier. Alors je lui ai dit, bon écoute, je te laisse parce que la moto va craquer en allant si lentement. Parce qu'une moto est faite pour tourner à un rythme minimum. Et si tu te perds, tu passes tes films à l'envers, tu retrouveras le départ. Et oui, mais maintenant, il nous les manque, les gars. Et puis arrive, au bout d'un certain moment, enfin, je les avais envoyés à la montagne. Allez me chercher les deux coureurs qui manquent. Et puis arrive à un certain moment, un homme et une femme, main dans la main, et le secrétaire général, qui avait à l'époque 80 ans, me dit, mais ceux-là, ils ont dû passer le bon moment à la montagne. Mais c'est qu'ils ne pensaient pas si bien dire. C'est que, mes gars, ils ont vu deux personnes qui couraient dans un chemin parallèle, ils sont allés. Sauf que c'était un gars et une femme qui couraient nus. Mes jeunes, qui avaient 18 ans, 19 ans, étaient un petit peu surpris de la situation. Et il leur a dit, les deux gars, attendez les jeunes, attendez. Ils posent la caméra sur un rocher et je vous laisse deviner ce qu'ils ont fait. Il y avait la télé FR3 qui faisait un direct, enfin, dans les conditions du direct, mais transmis un mois plus tard. Et quand un mois plus tard, cette émission est passée, les jeunes m'avaient dit ce qu'ils avaient fait. On appelle dans le jargon poli calivette. Et il arrête net sur l'interview du monsieur qui lui disait « Oh, d'habitude, je termine pas dernier, mais aujourd'hui, ça valait le coup. » Et puis, il coupe net. Je l'appelle. Et je lui dis « Mais dis donc, pourquoi tu as coupé net l'interview ? Oh, tu sais, si on avait passé ce que la femme avait dit, on aurait eu beaucoup de choses surprenantes. » Et bien, je lui ai dit, mais c'est ça qui s'est passé. Quoi ? Oui, c'est ça qui s'est passé. Voilà, c'est une histoire entre autres. J'aurai aussi des histoires sur la contrebande et compagnie. Alors, c'est ça la course secrète. C'est la course, mais la fête d'abord.
Ah bah, j'imagine que depuis 1966, des anecdotes et des histoires assez ubuesques, il a dû en avoir un paquet. Quelles ont été justement les difficultés en tant qu'organisateur à surmonter avec l'évolution des réglementations, des toutes les contraintes et puis qui sont pas arrivées toutes là non plus par hasard, hein, mais j'imagine que ça devait être plus difficile sur certains aspects du moins d'organiser des courses au fur et à mesure ou du moins que les difficultés ont évolué.
Bah, disons que la difficulté majeure en ce qui me concerne, c'est le bouclage du budget. Ça veut dire quoi ? nous ne cherchions pas forcément, nous ne cherchions pas forcément des sponsors. Quand ils sont venus, nous étions contents, mais quand ils sont partis, nous étions également contents. Je m'expliquerai. Le budget, moi je pars du principe que la course des crêtes est une course mutualiste. C'est pas parce qu'on court une course plus petite que l'autre qu'on doit obligatoirement payer moins cher. La base de la course des crêtes, c'est faire un événement ouvert à tout le monde, où tout le monde peut participer. Le mari court le 30, la femme court le 14, les enfants font la marche. Il faut que toute la famille participe. Et c'est ça qui a fait la force de la course des crêtes, qui d'ailleurs a été beaucoup, beaucoup copiée et souvent réussie mieux que nous. Ça, c'est l'élève qui dépasse le maître. Donc, la base, c'était ça. Tout le monde de la famille peut avoir son rôle dans la course des crêtes. C'est pour ça qu'il y a un 7 km qui est ouvert à tout le monde. Au 7 km, il y a des gens qui n'ont jamais couru, qui ne courent jamais après. La course des crêtes est également une des courses les plus reconnues pour démarrer le trail. Beaucoup démarrent le trail avec la course des crêtes. Le 14 km, le 20 km, le 30 km, et après on les retrouve tous dans des courses beaucoup plus importantes. Bien. Alors c'est ça la base de la course des crêtes. La mutualisation des efforts, la mutualisation des frais et la mutualisation du plaisir. C'est pas parce que la course est plus courte qu'elle va payer moins cher. Certes, c'est moins cher au final, mais le rapport kilométrage-course est plus cher pour le 7 km que pour le 30 km, en tout cas à mon époque. Même si maintenant la nouvelle équipe essaye de disons, équilibrer les budgets. Mais, alors, le sponsor, nous avons eu des sponsors et nous ont beaucoup servi, beaucoup, beaucoup servi. Sauf qu'à un moment donné, la règle du sponsor était la suivante. Je suis équipementier. Donc, ce jour-là, vous allez ne vendre que notre équipement. Et ça, je m'en suis rendu compte et j'ai dit, je veux pas ça. Moi, je veux maintenant un magasin qui vend minimum 5 marques différentes. Que ce soit en habit, que ce soit en équipement, chaussures, etc. Donc, là, nous retrouvons le jour de la course des crêtes, un petit magasin, eh bien, qui vend beaucoup plus que dans n'importe quelle course importante. Pour lui, c'est la meilleure recette. Pourquoi ? Parce que les gens locaux, ils ont leur magasin, mais les gens qui viennent de loin, qui trouvent des conditions d'achat très intéressantes, eh bien, c'est de l'argent qui vient de loin chez un magasin local. Et ça aussi, ça fait partie de l'ADN de la course des crêtes, faire rentrer économiquement de l'argent qui vient d'ailleurs. Et dans les enquêtes qui ont été faites, nous étions le palier moyen, le meilleur de une dizaine de courses. De toute la France, c'est nous qui avions le meilleur palier. Dans la course à pied, il faut tout penser. Il faut penser aux sportifs. Il faut penser à la gestion des gens qui arrivent. Il faut penser au côté économique. Ce qu'il y a, c'est que la course des crêtes, les commerçants d'Espelette disent c'est notre meilleur public de l'année. Pas en recette, parce que l'été, il y a les touristes et tout ça qui rapportent plus. Mais en état d'esprit, ils sont pas exigeants, ils sont accueillants, ils comprennent, ils nous disent c'est notre meilleure clientèle de l'année en état d'esprit. Et on lance la saison avec la course des crêtes et on est boosté. Et ça, c'est très très important d'entendre des commerçants. Et les commerçants, nous, à mon époque, nous ne demandions rien aux commerçants. Rien. Pourquoi ? Parce que la première nécessité d'un commerçant quand il a donné quelque chose, c'est de se rentabiliser ce qu'il a donné. Et quand il donne rien, il a l'esprit libre. Il soigne les coureurs qui viennent à Espelette. Il y en a même qui donnent un cadeau supplémentaire pour arrondir la facture. Quelqu'un me disait, tu as réussi à réunir paysans, agriculteurs, employés, ouvriers, commerçants. C'est toute Espelette, ou du moins Espelette est la région, qui fait que les gens viennent à Espelette pour la cause des crêtes. Attention, il y a un club, la Niapourak, qui en français, je le traduis par les démerdards, qui sont là. Il y a quand même 200 personnes qui sont là à la disposition des enfants et des jeunes. Le club a à peu près entre 180 et 200 adhérents.
Et alors, je voudrais rebondir sur le sujet des prix des dossards, que ceux qui font les courses les plus courtes ne payent pas forcément moins cher que ceux qui font les courses les plus longues. Qu'est-ce que tu réponds alors aux personnes qui comparent les courses en termes de rapport kilomètre-prix ?
Alors, déjà, nous sommes une course de montagne. Une course de montagne a beaucoup plus de contraintes qu'un trail. Un trail sont des gens qui se font en autosuffisance. Donc déjà, le kilomètre revient meilleur marché pour l'organisateur, puisqu'il n'a pas de ravitaillement obligatoire à fournir, sinon de l'eau à un moment donné. Nous, en course de montagne, nous sommes quand même, disons, à Espelette, avec une clientèle souvent débutante. Nous mettons un ravitaillement entre les meilleurs et les moins bons, entre 10 et 20 minutes. Il y a entre 10 et 20 minutes, il y a des postes de ravitaillement où il y a de l'eau, tout ce qu'il faut. Nous jetons, c'est comme ça, mais nous jetons dans des endroits, disons, à arroser, dans les 7000 litres d'eau. Attention, il ne faut pas considérer ça que c'est des bouteilles. Ce sont des citernes de 1000 litres alimentaires. Il y en a 12 sur le parcours. Alors, pour le 30 km, il y aura 12 ravitaillements. Pour le 20 km, il y en aura 10. Pour le 7 km, pour le 14 km, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Donc, le kilométrage revient plus cher. En course de montagne, avec l'obligation de fournir le ravitaillement total, même s'il y en a qui partent avec leur gourde, etc., parce qu'ils font d'autres courses, revient à 1,30€ le kilomètre. Le trail, c'est à 1€ le kilomètre. Pourquoi ? Parce que le coureur doit fournir son ravitaillement. Alors, elle est là la différence, elle est très importante. Les gens sont ahuris du nombre de ravitaillements qu'il y a sur le parcours de la course des crêtes. Et il y a des ravitaillements, j'en ai un en tête. Il y a entre les meilleurs, ils ont 5 minutes, et les moins bons, ils ont moins de 15 minutes de ravitaillement. Le ravitaillement, il y a un ravitaillement, entre deux ravitaillements, il y a 800 mètres, mais c'est que de la montagne. Alors, entre les meilleurs qui font ces 800 mètres en 10 minutes, et les moins bons qui le font en 20 minutes, vous voyez que les ravitaillements sont quand même assez présents. Et c'est pour ça que ça revient plus cher. En contrepartie, nous nous sommes aperçus que les coureurs en avaient marre d'avoir des tas de t-shirts, des stocks de t-shirts. Eh bien, pour ne pas augmenter le prix exagérément et sans vraiment besoin, nous faisons acheter le souvenir par les coureurs. Et je sais qu'il y a des courses très importantes en France qui sont en train de nous copier, Paris-Versailles, etc. Le coureur, ou il achète un souvenir qui lui est personnel et il l'achète au magasin du partenaire qu'il y a à l'arrivée, et c'est pour ça que les recettes augmentent, ou il achète rien parce qu'il a déjà assez de t-shirts. Et nous donnons le choix entre deux ou trois souvenirs. C'est-à-dire que cette année, il y a, je crois, les couvre-coups, je sais pas comment on appelle ça, il y a des t-shirts, le choix entre les couvre-coups et les t-shirts. Et à peu près tous les ans, bon an, mal an, il n'y a que 35 à 40% des participants qui achètent un souvenir proposé par l'organisation. Il y a maintenant, Jackie fait partie de cela, il y a des systèmes de magasins en ligne qui se montent pour l'organisation de telle ou telle course. Bien, voilà, c'est une évolution là aussi. Et Jackie, que vous connaissez bien, a vu que la formule que j'avais lancée il y a 7 ou 8 ans est en train de prendre. Pourquoi faire des dépenses inutiles à des coureurs qui n'en veulent pas, et les lots qui sont achetés à partir du moment où ils sont achetés, ils n'ont pas de sponsor à porter. Nous mettons des polos uniquement avec le logo de la cause des crêtes. Ils peuvent le porter après la douche, ils peuvent le porter le dimanche dans une balade avec leur épouse ou vice-versa. Donc, l'eau souvenir doit être quelque chose que le coureur aime porter.
Ouais, le concept de Jackie, ma boutique course, c'est vrai que quand j'avais reçu Jackie sur mon autre podcast, l'Instant Outdoor, c'était, j'avais trouvé ça vraiment excellent comme concept très novateur et puis très dans l'air du temps avec, et c'est vrai, tous ces coureurs qui font des courses tous les week-ends et qui se retrouvent avec plein de t-shirts qui ne leur servent plus à rien, et j'avais trouvé ça vraiment exceptionnel comme...
Ce qui me ravit, c'est qu'il y a des courses importantes qui me téléphonent pour savoir comment on s'y prenait. Et ils comptent mettre ça, disons, en place, parce que si on donne un t-shirt, c'est toujours 3 ou 4 euros de plus. Et à partir d'un certain moment, ça commence à compter. Il faut le dire. Et puis, alors, pour revenir à cet esprit de coureurs qui se plaignent des prix, ce sont souvent les coureurs locaux. Pourquoi ? Parce que les coureurs locaux, quand on augmente de 3 euros, c'est cher pour eux. Par contre, le coureur parisien qui vient au Pays Basque, 3 euros par rapport à un budget de 300 euros ou 400 euros, c'est pas grand-chose. Voilà. Il faut pas non plus avoir peur de ces réflexions. Il faut les écouter. Il faut faire quelque chose, c'est ce qu'on a fait, hein, ne mettant pas le t-shirt obligatoire. Mais il faut pas non plus s'affoler derrière cette remarque, parce que c'est un problème de comparaison de budget. 3 euros pour un local, c'est beaucoup. 3 euros pour un Parisien, c'est pas beaucoup, parce que le budget de Parisien, c'est 300, 400, 600 euros, alors que le budget d'un local, c'est 35 euros. Entre le dossard et le peu de kilomètres qu'il a à faire, c'est 35 euros. Voilà. Donc, il faut raison garder.
C'est intéressant, ce sujet de la comparaison, parce que sur ma course, le Grand Raid du Finistère, je discutais de ça avec le conservatoire du littoral qui maintenant fait financer en fait le passage des coureurs sur les zones qui sont conservatoires du littoral, et pour les petites courses, ça leur fait augmenter d'un euro le prix du dossard, ce qui pour certains est une belle augmentation, alors que pour mon ultra trail où le dossard est déjà à plus de 100 euros, bon, augmenter d'un euro, c'est pas ça qui va marquer
les points.
C'est intéressant ce sujet de la comparaison. Et alors, je voulais revenir sur un sujet qui m'intéresse énormément. C'est comme il y a beaucoup de ravitaillement, donc on l'a vu, hein, 12 sur 30 km, c'est ça, hein,
Oui, c'est ça, oui.
Voilà. Ça, à mon avis, ça demande énormément de bénévoles. Comment est-ce que... parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un sujet qui est un peu difficile, hein, le recrutement des bénévoles. Comment est-ce que vous avez réussi à fidéliser les bénévoles et à organiser aussi leur présence ?
Bon, disons que les bénévoles à la montagne, nous les trouvons facilement. On aime aller à la montagne, on aime les coureurs, c'est de l'ambiance, il y a la musique, on rigole, on mange également bien à la montagne. Honnêtement, nous n'avons pas trop de problèmes de bénévoles pour la montagne. Nous en avons même, entre guillemets, trop par rapport au nombre de coureurs. En densité de bénévoles, nous avons certainement plus de bénévoles que le marathon de Paris. Je lance un coucou à Joël Lenné, qui a été organisateur du marathon de Paris pendant plus de 20 ans. Je lui disais, tu vois, nous, à Espelette, 2000 habitants, 4000 coureurs. Vous, à Paris, 7 millions de personnes, il vous faudrait 14 millions de coureurs. Donc, nous sommes meilleurs que vous. Et la même chose fait que, au niveau bénévole, ils ont, je crois, 2000 bénévoles, un truc comme ça, mais nous, dans la même proportion, ils devraient être, eux, à 10 000. Donc, pour dire, les bénévoles, ils viennent. Nous n'avons pas de problème de bénévoles à la montagne. Par contre, pour le repas du soir, ça devient un petit peu plus dur, parce que le même jour, il y a des grosses fêtes aux alentours qui attirent les jeunes. Voilà. Mais nous arrivons quand même toujours à avoir, nous avons régulièrement, maintenant il ne faudra plus parce que le système a changé de repas, nous avions 160, 200 serveurs, tous des bénévoles. Donc, le problème du bénévolat, c'est également un état d'esprit. Aux bénévoles, il faut leur donner quelque chose, pas d'argent, pas de repas pentagruélique, mais l'ambiance. Rigoler avec les copains, c'est la fin de l'école, il faut donner l'ambiance, on rigole, on passe de bons moments, on a les copains, les copines, il y en a qui sont de loin et pas l'occasion de les voir pendant 2 mois de vacances, ça explose, l'ambiance explose, c'est le bien vivant qui explose.
Sur la gestion et l'organisation des bénévoles, aujourd'hui on a des solutions hein, comme Recruteer qui fait partie du team partner qui est spécialisé dans la gestion et l'organisation des bénévoles. Comment est-ce que c'était géré à l'origine de la course et comment est-ce que ça a évolué ce sujet de l'organisation parce que c'est un poste à plein temps hein, ce sujet de la gestion.
Alors,
des bénévoles.
L'autre état d'esprit, c'est de ne refuser personne. Un gosse qui avait 6 ans, il voulait être serveur. Eh bien, on lui faisait servir le pain. Il était heureux. Et un gosse de 5 ans, 6 ans, qui a participé à une telle ambiance, avec le bal, la musique, les convives qui avaient un très bon esprit. Eh bien, à 5 ans, il sert le pain. À 15 ans, il est capable de servir 30 repas. Et à 25 ans, il est capable de porter des poids, etc. Ils sont présents. Ne jamais refuser un gosse qui veut être bénévole. Il est heureux, il est fier, il est valorisé. Mais à 25 ans, on l'a toujours. Nous avons des bénévoles qui ont fait 35 ans, 40 ans de service au repas ou à la montagne. L'état d'esprit que nous avions, c'est de ne refuser personne. De leur faire croire qu'ils étaient très importants. Et ça a été notre réussite.
Et est-ce que tu dirais que l'esprit du Pays Basque aide beaucoup à ça? Enfin, on sent, enfin, le Pays Basque, c'est quand même connu pour être une région festive de nature. Enfin, est-ce que tu penses que le même concept dans une autre région, ça prendrait autant?
Ça a beaucoup servi. Alors, le fait qu'on soit au Pays Basque a énormes avantages et petits inconvénients. Quand nous tenons des stands dans les courses, ils voient le logo Pays Basque, ils viennent. Ce n'est pas des coureurs forcément, ils viennent pas courir, mais ils viennent voir le Pays Basque. Et là, on leur présente la course des Crêtes. Mais ils viennent au départ pour le Pays Basque. La course des Crêtes n'est pas très connue, heureusement, parce que si on était connu, on aurait 10 000 coureurs. Non. On n'est pas connu, y compris chez nous. Ça a été la grande surprise. Quand j'ai organisé pendant le Covid le Mondarin Trail, qui était une course, disons, petite, parce qu'il n'y a eu que 500-600 coureurs, on s'est rendu compte qu'il y a des gars, des villages alentours, qui ne nous connaissaient pas. Et c'est comme ça que du Mondarin Trail, qui était une course plutôt locale, voire à la limite régionale, il y a beaucoup de monde qui est venu à la course des Crêtes qui ne connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisaient ni le Sud-Ouest, qui est le journal local, ni France Bleu, qui était notre partenaire. Ils étaient dans les réseaux sociaux. Ils étaient, à la limite, ils entendaient de bouche à oreille ce qui se passait. Donc ça a été une belle découverte. Nous ne sommes pas connus par certains localement. Nous serions apparemment très connus en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une année, en 1975, je crois, où nous avons fait une épreuve toute espelette court. Nous étions 3 marathoniens qui défions 300 espelettards. La première année, nous avons perdu de 800 mètres. La deuxième année, nous avons gagné de 1200 mètres. Et en Allemagne, ils ont organisé en 1976, je crois, toute espelette court. Le titre a été gardé en Allemagne, toute espelette court. Et c'est pour ça que Espelette a été connu, mais seulement la date est mauvaise. La date pour eux, pour les Allemands, est mauvaise parce que c'est le début des vacances, les écoles ne sont pas terminées, etc. L'inconvénient que nous avons, c'est que nous sommes excentrés, totalement excentrés. Nous sommes tout à fait en bas, à gauche. Et quand je vais à Marseille-Cassis présenter la course des Crêtes, l'argument qui commence à porter, c'est que vous venez à Marseille-Cassis, vous avez 600 km à faire, alors que de chez vous au Pays Basque, on n'avait que 500. Et on commence à faire passer ce message. Ce message qui fait que le Pays Basque est fantastique, est formidable, accueillant, gastronomique. Alors là, il faut parler de la gastronomie aussi. Mais on donne l'impression d'être loin. Nous sommes loin par rapport à l'Alsace. Et paradoxalement, voilà que c'est l'Alsace qui commence à avoir des nouveaux coureurs, qui nous fournit des nouveaux coureurs. Le centre de la France peut venir à Espelette, s'ils calculent bien, ils n'ont pas plus de kilomètres à faire pour venir chez nous que pour venir ailleurs, pour venir dans d'autres courses.
C'est ultra inspirant, ces histoires d'organisation. Vraiment, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que on se sent habité hein, quand même par cette course. Là aujourd'hui, c'est Amaury Luguin. Pardonnez-moi si je me trompe de prononciation du nom. Mais comment est-ce que la succession s'est passée et comment est-ce qu'on cède un petit peu son bébé comme ça?
Je cède pas mon bébé. C'est le bébé que les autres souhaitent. Ça, c'est très bien. Ils veulent pas le kidnapper, ils veulent le faire grandir. Alors, Amaury et l'équipe dirigeante sont des gars qui sont chez nous depuis plus de 20 ans. Ils sont arrivés Benjamin et ils sont allés senior. Ils ont couru, sauté, lancé et ils sont devenus entraîneurs. Ils sont au comité directeur du club depuis... Enfin, ils étaient au moment de prendre les rênes, ils étaient au comité directeur depuis 10-12 ans. Ils sont, pour certains, au comité directeur départemental. Ça veut dire que ce sont les enfants de la balle. Ils connaissent, ils savent. Ils n'ont pas forcément les mêmes prérogatives que moi et les mêmes techniques que moi, mais ça marche. C'est ça qui est important. Ils ont changé les méthodes. Sur certaines, j'avais des doutes, mais finalement... parce que on se croise, il m'appelle, il me demande des conseils. Finalement, je suis d'accord. Il y a d'autres points, je leur dis faites attention parce que c'est pas tout à fait comme ça peut-être que les gens nous perçoivent. Ce sont des enfants de la balle. Ils connaissent le fonctionnement de Niapourak. Même si Covid étant et compagnie, certaines évolutions ont été obligatoires. Je donnerai un exemple. Au comité directeur, quand j'étais président, j'avais convoqué un assureur pour discuter de l'assurance, parce que nous sommes propriétaires de bâtiments. Nous avons construit notre clubhouse, dans lequel nous faisons des mariages, des anniversaires, des entraînements, etc. C'est un petit club comme nous, être propriétaire d'un bâtiment de 918 mètres carrés, avec tout ce qu'il faut comme salle de musculation, etc. C'est quand même aussi une performance. La cause des crêtes nous a aidés. Nous avons fait, certaines années, de jolis bénéfices. Mais tout a été réinvesti dans le bâtiment. Peu de gonnetons, peu de repas, sinon payé par soi-même. Alors, l'assureur est venu, c'est une assureuse qui est venue, et le comité directeur a posé plein de questions. Tous les jeunes qui étaient au comité directeur ont posé des questions, ont demandé. Et elle m'a dit en partant, j'ai fait beaucoup de réunions, de comité d'entreprise, de direction de société, mais j'ai jamais vu comme chez toi. Jamais. Les questions posées, on me les a jamais posées. Et c'est un signe. C'est-à-dire que chaque personne du comité directeur avait son mot à dire. Certains plus à l'aise dans le côté technique et sportif, d'autres plus à l'aise dans le côté juridique. C'est ça. Et c'est ça qui a fait que l'association Niapourak d'Espelette a une bonne base. Nous avons financé pour le bâtiment quelque chose comme 1 400 000 euros de notre caisse. C'est-à-dire que les bénéfices de la cause des crêtes, les bénéfices de spectacle Force Basque, quelques petits dons, et je crois qu'il y a eu dans les 10 ou 15 000 euros de subvention. Donc, nous sommes capables, nous avons été capables de s'autogérer et nous y tenons.
Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un organisateur qui se lance dans l'organisation d'événements sportifs et qui va devoir faire face justement à toutes les difficultés, mais aussi tous les succès potentiels que tu as connus?
Disons que déjà, de ne pas lésiner sur la sécurité. le service médical, le service secours. Alors, ça concerne pour la cause des crêtes à 7 à 8 équipes d'urgentistes, une bonne quarantaine de, une trentaine, allez, de kinés ostéopathes, les transmissions avec zéro point noir dans le parcours, n'importe où, nous installons des bretelles, etc., les techniciens comprendront, ça nous coûte dans les 23 000 euros. Et là, c'est le risque que je vois dans beaucoup de courses où ils ne mettent pas de financement pour les secours. Et résultat, je touche du bois, certes, nous avons eu quelques difficultés, mais aucun mort, aucun décès. Il faut également dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Nous avons une course qui part à 13 heures, en plein soleil, parfois. Nous, on nous apprenait dans les années 70 qu'il fallait partir avec la chaleur pour arriver avec la fraîcheur. Et non partir avec la fraîcheur pour arriver avec la chaleur. Alors, aux personnes qui nous disent « Pourquoi vous nous faites partir à 13 heures ?» Je réponds. Qu'est-ce qui vaut mieux, partir à 13 heures, les jambes et le corps reposés, ou courir encore à 13 heures alors que nous sommes partis à 9 heures? Le corps, et une fois je discutais avec ça, de ça, avec une fille qui courait, et un homme nous a demandé l'autorisation de participer à notre discussion. Elle, la fille, ne voulait pas courir le 30 km quand il faisait très chaud. Elle aimait beaucoup cette course, mais avec la chaleur, non. Et la personne en question a demandé à rentrer dans notre discussion. Et il nous a dit, monsieur a raison. Il faut partir avec la chaleur pour essayer d'arriver avec la fraîcheur. Je suis un ancien organisateur du Paris-Nice. Et nous, les coureurs, ils partent en plein soleil. Alors, il y a des techniques. L'arrosage. Il faut jamais arroser la tête. L'eau est conducteur de chaleur. Il faut arroser les tempes, les joues, la nuque, vraiment la nuque, le cou derrière, mais jamais la tête. Jamais n'arroser la casquette qui est dans la tête. Un œuf, quand on le met dans l'eau et que ça chauffe, il durcit. Un œuf, quand on met dans une casserole et qu'on chauffe, il durcit pas. L'eau est conducteur de chaleur. Voilà des techniques qu'on nous apprenait. On nous apprenait. Le cerveau à des éclaireurs et des sentinelles. Le matin, en partant à 9h, il dit, il fait bon. L'après-midi, en partant à 13h, il dit, attention, il fait chaud. Et nous avons 90% des abandons à la première difficulté. Pourquoi? Parce que le cerveau lui a dit, il fait chaud, et l'autre cerveau, l'autre partie du cerveau lui dit, il y a la fête. Alors les gars, s'arrêtent à la première difficulté, parce qu'ils veulent plutôt faire la fête que de courir en se fatiguant. Voilà, c'est quelque chose auquel, moi, personnellement, je tiens. Partir à 13 heures, même en plein cagnard, on a eu des départs à 40 degrés, il n'y a pas eu. Le corps sait, grâce au cerveau et à ses éclaireurs, qu'il fait chaud et qu'il faut faire attention.
C'est ultra intéressant sous ces sujets de, parce que c'est vraiment des vrais sujets. Enfin, les heures de départ, l'organisation des différentes courses en fonction des heures de départ, c'est intéressant d'expliquer en fait ces choix qui sont faits, et en fait ils sont toujours justifiés, après, parce que les coureurs
après la course des crêtes, nous avons surtout des fêtards, hein. Donc la course oui d'accord, mais il y a la fête ce soir. Voilà.
Ça.
Ça, c'est particulier à la cause écrite. Il faut dire, c'est particulier.
Et ben, en tout cas, tu nous as bien donné envie de, enfin, du moins à moi, de venir découvrir cette fête. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Gabi, et que tu aurais aimé ajouter pour clôturer notre échange?
Si des gens voulaient poser des questions, moi, je répondrai. Mais, ouais, après, c'est vrai qu'il y a le budget qu'il faut. Nous, ça faisait un budget de 300 000 euros à un moment donné. Il fallait trouver. Moi, je me faisais un peu de cheveux blancs, mais le 15 juin, pour une course des premiers jours de juillet, le 15 juillet, on arrivait à couvrir, quoi. Mais c'est important. Il faut que Si vous voulez, ceux qui se plaignent, il y a très peu d'organisateurs. Très peu d'organisateurs coureurs qui se plaignent. Ceux qui se plaignent sont souvent des coureurs qui n'ont jamais rien organisé et qui n'ont pas envie d'organiser. Il faut les respecter, mais qu'ils nous comprennent.
Il faut leur faire découvrir notre monde. Et puis, tout de suite, quand tu te renseignes, eh bien, ça, et quand tu expliques avec un peu de pédagogie, souvent, ça apaise les tensions.
Oui, moi, quand j'avais des gens qui me reprochaient le budget, eh bien, je leur disais, venez aux réunions du comité directeur de Niapourak, on vous loge si vous voulez, et puis vous allez voir. Vous allez voir comment se passe le montage du budget. Jamais personne n'a accepté de venir.
Oui, forcément. merci beaucoup, Gabi. Quelle est la suite là, pour toi maintenant en tant qu'organisateur? Tu continues d'organiser des événements?
Non, l'organisation, j'ai passé la main en 2018 parce qu'il faut passer la main. Ça me permet de... Bon, je suis toujours consulté et je réponds ce que moi je pense. Certes, je ne suis pas toujours suivi, mais c'est pas grave. L'événement continue, l'événement perdure et c'est le principal.
Eh ben, en tout cas, c'était vraiment un très grand honneur de t'avoir en premier invité
Pour moi aussi, je suis très content. Et voilà, c'est une formule qui me plaît. Je ne sais pas trop ce que c'était comme podcast. C'est pas mal. C'est bien. Et merci. Merci d'avoir permis de faire de la promotion de la cause des crêtes. Et je leur dis tous à Espelette, le sport d'accord, la fête d'abord, les jambes pour la course, la tête pour la fête.
Je crois qu'on ne pouvait pas mieux clôturer. Merci beaucoup, Gabi. Et au plaisir dans le Pays Basque. En tant que Breton, je me ferai un plaisir de descendre. Allez, à bientôt.
Vous m'avertissez, on s'en occupera.
Avec plaisir.